Bonjour à tous. Une communauté idéale, foutraque, désarçonnée par l'arrivée d'un migrant et une jeune fille qui n'en est peut-être pas une. La lauréate du Livre Inter 2019 nous parle du genre, de la norme, de la minorité. Bonjour Emmanuel Bayamaktam.
Bonjour.
Vous publiez Arcadie chez POL, prix Inter au troisième et dernier tour du scrutin hier. Nous serons ensemble de 13h30 à 14h pour une édition spéciale avec le président du jury Riyad Satouf, les jurés et Eva Bétan à tout à l'heure. Avant cela, jusqu'à 13h30, l'actualité de ce lundi 10 juin 2019, lundi de Pentecôte et lundi de deuil au Sable d'Olonne. Plus de 15 000 personnes ont rendu hommage aux trois sauveteurs morts vendredi dernier dans la tempête.
Nous sommes tous en deuil, tous en pleurs. Nous avons une très très grande solidarité entre nous, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas tellement de mots parce que je suis tellement mal que c'est une catastrophe.
L'injure faite à Latifa Benziaten et à son fils Imad, victime du terroriste Mera. Des tags injurieux et menaçants sur la maison de Madame Benziaten qui a décidé de porter plainte.
Je vois sur la terrasse, c'est écrit « Vive Mera, sale juif, on va te voir bientôt Latifa, qu'est-ce que je fais de mal ?» Pourquoi la paix devient aussi compliquée?
Ce lundi de Pentecôte est aussi un jour de travail gratuit pour financer la dépendance et pourtant il manque beaucoup d'argent. Conférence de presse des syndicats ce matin. Au Brésil, l'opération main propre était-elle si propre? Selon un site internet d'investigation, Lula aurait été poursuivi et incarcéré sur de fausses informations. À suivre, l'énorme mobilisation à Hong Kong contre un projet de réforme de la justice. Nous en parlerons avec notre invité, le sinologue Jean-Philippe Béja. Des turbulences dans l'Alliance, Renault se fâche avec Nissan. Retour au Burkina Faso, un mois tout juste après la mort de deux soldats des forces spéciales françaises. Notre rendez-vous quotidien avec la Coupe du Monde féminine de football. Aucun pays arabe ne s'est jamais qualifié pour cette compétition et pourtant là-bas, il y a beaucoup de footballeuses et de supportrices. Le temps, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est frais, c'est trop frais.
Eh oui, 14 à 22 degrés cet après-midi, c'est mieux sur le sud-est, 23 à 29. On trouve de belles éclaircies près de la Méditerranée, de la Vendée et de l'Aquitaine vers le centre également, parfois avec une averse. Et puis ailleurs, beaucoup de nuages, des averses orageuses sur l'est et de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine en passant par la région parisienne.
Elodie, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour les prévisions complètes.
France Inter.
Vous avez entendu l'annonce en direct dans le 7-9 ce matin sur France Inter. Emmanuel Bayamaktam, lauréate du prix du Livre Inter pour Arcadie, s'est publié chez POL. On en reparlera longuement entre 13h30 et 14h avec vous et avec les jurés qui vous ont récompensé. Mais on va commencer ce journal avec vous, Emmanuel Bayamaktam. D'abord, félicitations.
Je vous remercie.
Un conseil pour les auditeurs d'Inter. Pourquoi faut-il lire votre livre ?
Mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Vous avez derrière vous 24 personnes qui ont, je pense, beaucoup de choses à dire sur le sujet.
Qu'est-ce que vous avez mis dans ce livre ?
Qu'est-ce que vous avez voulu
mettre ?
Alors, j'ai mis bizarrement beaucoup d'inquiétudes et de motifs d'indignation. C'est un peu parti de là, hein. D'inquiétude concernant un peu le sort qui est fait à la planète et celui qui est fait aux migrants. C'est un livre que j'ai écrit avec pas mal de hargne, en fait.
Ça se voit parfois dans le style ?
Oui, je n'en doute pas.
Ça fait près de 500 pages. On se retrouve à 13h30. On aura une demi-heure pour en parler tous ensemble. À tout à l'heure. La République rendra hommage aux trois sauveteurs morts vendredi au Sable d'Olonne. Ils essayaient de sauver un pêcheur en difficulté. Le président de la Société nationale de sauvetage en mer annonce ce matin qu'il y aura un hommage national cette semaine. Le jour et le lieu restent à préciser. En attendant ce matin, hommage des habitants des Sables d'Olonne, ceux qui croisaient quotidiennement ces sauveteurs volontaires et bénévoles de la SNSM. Une marche silencieuse a réuni au moins 15 000 personnes selon la préfecture. Bonjour Benjamin Mathieu.
Bonjour Frédéric.
Rappelons qu'il y a un peu plus de 40 000 habitants au Sable d'Olonne, c'est une affluence considérable.
Une profonde émotion ici en fin de matinée, quand vous venez de le dire, les 15 000 personnes de cette marche sont arrivées sur le lieu où le Jacques Morisseau s'est échoué en silence, mais en face d'eux, des dizaines de bateaux de pêche et les vedettes de sauvetage venues de toute la Vendée ont brisé ce silence en klaxonnant au large, suivi par de nombreux applaudissements. Damien, un plongeur sauveteur en gilet orange, venu en solidarité.
Mais c'est, on est une famille énorme, et forcément, dès qu'il y a des copains qui perdent la vie pour sauver celle des autres, ça touche tout le monde. Ça nous touche, voilà, on est là et ça se passe de commentaires, quoi.
dans la foule des anonymes, des Sablais, c'est une communauté qui est ébranlée, car tout le monde ici se connaît. Comme Irène, une amie de Yann Chagnolo, l'un des sauveteurs disparus, fleur à la main, venu lui rendre un dernier hommage.
Beaucoup de tristesse. Un marin, un ami, enfin quelqu'un de bien, et les autres aussi d'ailleurs, tout le monde.
Les discussions que j'ai avec les habitants, la plupart souvent reviennent sur la Légion d'honneur.
Le mérite, mais je pense que les quatre autres personnes qui sont restées le méritent aussi.
Face à la mer, quelques proches en pleurs lançant des « on t'aime » ou « c'est pour vous », effondrés et en larmes. Dans ce petit groupe, il y a Gilles. Il fait partie de la famille d'Alain Guibert, l'un des sauveteurs disparus.
C'est pas facile pour tout le monde, malheureusement. C'est comme ça.
Il va y avoir des obsèques nationales.
Déjà, on va aller le voir au funérarium. Après, voilà, on attendra ce qui se passera après. Quoi. Voilà.
On ne sait pas encore quand aura lieu cet hommage national, mais on attend des ministres ici pour remettre ces légions d'honneur à titre posthume. Au Sable d'Olonne, Georges Taub, Benjamin Mathieu pour France Inter.
Merci à tous les deux. Un chauffard est toujours en fuite à Lorient. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, connu pour plusieurs conduites sans permis. Hier, il a fauché deux enfants près d'un rond-point. L'un est mort, il avait 10 ans. L'autre de 7 ans est hospitalisé en urgence absolue. L'homme, activement recherché, avait brusquement redémarré après un contrôle routier des gendarmes. Il a abandonné ensuite son véhicule. À Toulouse, un camion poubelle se renverse sur le périphérique intérieur. Ce matin, au niveau de l'échangeur du Palais, une information de France Bleu Occitanie. Un homme a été tué et deux autres personnes blessées. Aujourd'hui, la journée est classée orange dans le sens des retours de la Pentecôte. Les bouchons devraient commencer dans l'après-midi et durer jusque dans la soirée. Attention aux abords des grandes agglomérations en Île-de-France, à Montpellier, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou Rouen. Des tags injurieux sur la maison de Latifa Ibn Ziaten, la mère d'un des soldats assassinés par le terroriste Mohamed Merah. Elle explique qu'elle a trouvé des inscriptions injurieuses et menaçantes qui faisaient l'apologie de Mohamed Merah. Elle a porté plainte. Depuis la mort de son fils Imad, Latifa Ibn Ziaten milite pour le dialogue entre les différentes religions et contre toutes les radicalisations. Nos collègues de France Bleu Normandie à Rouen viennent de la joindre.
Ce matin, je me suis réveillée. Spontanément, j'ouvre la fenêtre, comme l'habitude, de mon jardin et je vois sur la terrasse, c'est écrit « On va t'avoir bientôt ». Et on fait le tour de la maison et tout écrit « Vive Merah, sale juif, on va t'avoir bientôt, Latifa ». Vous voyez, c'est... Sur le coup, franchement, je ne comprenais rien. Et qu'est-ce que je fais de mal, j'essaie de passer ce message de paix, de vivre ensemble, de... Pourquoi la paix devient aussi compliquée? Je ne veux pas un autre mirage. Voilà, je sais qu'est-ce que c'est la souffrance. Ça fait 7 ans que je le vis avec. Je ne comprends pas. C'est juste, je pense, pour me faire peur, hein, tout simplement. Hein. C'est inquiétant, mais voilà, je ne lâcherai pas.
Une interview signée Christine Wurtz. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a téléphoné à Latifa Ben Ziaten. Il l'assure de son soutien et de sa détermination à ce que les auteurs de ces tags soient jugés. Ce matin, 12 orphelins français, enfants de djihadistes, sont arrivés à Paris. Ils avaient été remis aux autorités françaises par les Kurdes de Syrie. Le plus âgé de ces enfants a 10 ans. Tous vivaient dans des camps du nord-est de la Syrie. Certains mal nourris et mal soignés. Cela fait 15 ans que les salariés travaillent le jour du lundi de Pentecôte, que ceux qui travaillent le jour du lundi de Pentecôte le font pour rien. Depuis 2004, en effet, les employeurs doivent reverser l'équivalent d'un jour de salaire à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Dans certaines entreprises, on travaille donc le lundi de Pentecôte. Dans d'autres, on a rendu un jour de congé. Mais 15 ans après, pour les syndicats, c'est toujours une réforme difficile à digérer. Tout travail mérite salaire, explique le vice-président de la CFTC. Je le cite, qu'on arrête de faire de la communication en nous disant que faire travailler des gens sans être rémunéré, c'est de la solidarité. Cette journée dite de solidarité devrait rapporter 2,870 milliards d'euros, mais ces mêmes syndicats estiment que ce n'est pas assez, que le financement de la dépendance est encore loin d'être assuré, et ils l'ont dit ce matin en conférence de presse, Adrien Toffolet.
Effectivement, Frédéric, c'était d'ailleurs l'entrée en matière de la réunion de l'intersyndicale ce matin. Cette question centrale du financement de la dépendance, des établissements spécialisés, des salaires et des conditions de travail, des infirmiers et des aides-soignantes. Alors, certes, cette seule journée n'est pas suffisante, disent les syndicats, mais les fonds récoltés sont mal utilisés, dénonce une nouvelle fois Pascal Chanvert, le président de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.
une partie des crédits issus de ce jour férié ont été détournés par l'État, par les départements, pour faire autre chose que l'aide aux personnes âgées. Et ça, c'est insupportable. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le jour férié, il rapporte à peu près 3 milliards. Il y a 6 milliards d'euros qui ont été détournés depuis 15 ans. Et quand nous disons-nous qu'il faut créer dès maintenant 2 postes dans chaque service, dans chaque établissement, ça coûterait 1,5 milliard. C'est-à-dire 4 fois moins que ce qui a été détourné par l'État et les départements.
Alors plusieurs membres de la majorité, la députée Aurore Berger récemment, ont milité pour l'instauration d'une deuxième journée de solidarité, mais syndicats comme patronat n'en veulent pas. L'intersyndicale appelle tous les acteurs à se mettre autour d'une table pour évaluer les différentes pistes de financement.
Est-ce que c'est une augmentation des cotisations sociales? Est-ce que c'est une augmentation des impôts? Est-ce que c'est une taxe sur les successions? Il faut discuter de tout cela. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce ne sont ni les Chinois ni les Martiens qui financeront l'aide à l'autonomie des personnes âgées françaises.
L'intersyndicale a envoyé un courrier début avril en ce sens à Agnès Buzyn, restée sans réponse aujourd'hui. Les syndicats espèrent qu'Édouard Philippe en parlera mercredi dans son discours de politique générale. Une journée d'action est également prévue au 1er juillet prochain, rassemblement devant le ministère de la Santé afin de pousser Agnès Buzyn à leur répondre.
Adrien Toffolet avec Thibaut Nassimben pour France Inter. Renault-Nissan, objet littéraire. Tiens, pourquoi pas, la situation chez Renault qui a tout d'un bon polar. Dans le tome 1, vous aviez l'arrestation de Carlos Ghosn, ses deux incarcérations, puis ses deux remises en liberté conditionnelle. Place au tome 2 à présent avec l'après Ghosn. La direction de Renault menace de bloquer tout changement au sein de Nissan dont elle est actionnaire. Nissan confirme les informations du Financial Times. Oui, nous avons reçu un courrier de Renault signalant son intention de s'abstenir lors de la prochaine Assemblée Générale. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
De quoi s'agit-il? Quelles sont ces réformes internes à Nissan et surtout pourquoi Renault s'y oppose-t-elle?
Alors on a sondé Renault ce matin, aucun commentaire du côté du constructeur français, où l'on tient à rester discret à 2 jours de l'AG des actionnaires, la première de l'après Ghosn qui revêt donc une importance, vous vous en doutez, particulière pour l'avenir de l'Alliance en fait. Selon la presse britannique, Nissan aurait l'intention de modifier ses statuts, de créer 3 nouveaux comités distincts au sein de sa structure, dont Renault serait plus ou moins tenu à l'écart sur les nominations et les rémunérations. Selon le FT, le président de l'Alliance, Jean-Dominique Senard, aurait une crainte, surtout que l'influence de Renault soit quelque peu altérée dans cette nouvelle mouture.
Ouais, un Jean-Dominique Senard choisi pour remplacer Carlos Ghosn chez Renault et au sein de l'Alliance, bah aujourd'hui il semble affaibli, Maxime.
Ouais, l'ancien patron de Michelin, appelé il y a quelques mois à la rescousse, et dont on dit dans les couloirs chez Renault qu'il aurait songé a démissionné, émoussé par l'interventionnisme de l'État la semaine dernière dans le dossier Fiat, le report demandé par le gouvernement, l'agacement des Italiens et l'arrêt des négociations. Jean-Dominique Senard se serait senti désavoué. Sur ce point, Bruno Le Maire, ce matin du Japon, a tenu à dissiper tout malentendu.
L'État fixe la stratégie. Il ne dirige pas les entreprises à la place des entreprises. Jean-Dominique Senard a la confiance de l'État français et je pense qu'il serait bon de remettre les questions stratégiques avant les questions accessoires.
Le ministre de l'économie qui n'aurait d'ailleurs pas fermé la porte à l'idée d'une fusion avec Fiat ce matin. En dépit de l'échec des discussions, ce projet reste, selon Bruno Le Maire, une belle opportunité.
Maxime Debs.
Le journal de 13h sur France Inter.
L'enquête anticorruption au Brésil, Lava Jato, a-t-elle été lancée pour empêcher le retour de Lula? C'est ce qu'affirme le site d'investigation The Intercept. Cette opération main propre n'aurait pas été seulement motivée par une probité et par un souci de justice impartiaux, non. Si l'on en croit cette enquête, des magistrats chargés de l'enquête, très marqués à droite, auraient manœuvré pour barrer la route au parti des travailleurs, notamment Sergio Moro, devenu, comme par hasard, ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Olivier Poujade, si c'était bien le cas, ces révélations seraient explosives.
L'enquête publiée en 3 parties accuse Sergio Moro d'avoir accéléré volontairement les procédures pour empêcher la candidature de Lula à l'élection. Les 2 journalistes Glenn Greenwald et Victor Pougier évoquent également un complot caché, les doutes des procureurs eux-mêmes sur la culpabilité de Lula, des abus de pouvoir aussi à des fins politiques pour empêcher la victoire du Parti des Travailleurs à la présidentielle de 2018. Si les premiers messages publiés ne sont pas forcément très éloquents, certains révèlent les craintes partagées par les procureurs. Parmi eux, Laura Tessler s'inquiète par exemple que l'on puisse autoriser une demande d'interview de Lula juste avant le premier tour de l'élection. Interview qui pourrait, écrit-elle, favoriser l'élection de Fernando Haddad, le candidat du PT. Haddad qui parle aujourd'hui du plus grand scandale institutionnel de l'histoire de la République brésilienne, si ces informations évidemment sont vérifiées. Dans une première réaction, Sergio Moro rejette lui de son côté ces accusations et regrette que l'identité de la source n'ait pas été dévoilée. Il estime que les messages publiés ont été sortis de leur contexte.
Sans surprise, le nouveau président du Kazakhstan s'appelle Tokayev, élu avec 70,6% des voix. Il était déjà président par intérim et soutenu par l'ancien président, l'omnipotent Nazarbayev. Et sans surprise, dans cette ex-république soviétique riche en hydrocarbures d'Asie centrale, les observateurs internationaux de l'OSCE parlent d'un respect insuffisant des normes démocratiques. Durant ce week-end électoral, au moins 500 personnes ont été arrêtées au Kazakhstan. Là non plus, ce n'est pas une surprise. Pékin soutient le gouvernement local de Hong Kong qui veut réformer le système judiciaire local. Malgré la mobilisation de plus d'un million de personnes hier dans l'ancienne colonie britannique, élément de langage habituel de la Chine populaire, nous nous opposons fermement à toute force extérieure intervenant dans les affaires d'Hong Kong. Bonjour Jean-Philippe Béja. Vous êtes l'invité de ce journal de 13h sur France Inter, Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS, sinologue et sinisant. D'abord, on va revenir avec vous sur l'ampleur de la mobilisation. Un million de manifestants à Hong Kong, c'est colossal.
C'est absolument énorme. La population de Hong Kong est de 7 millions d'habitants. Donc une personne sur 7, ça veut dire pratiquement tout le monde dans la rue. C'est la plus grande manifestation depuis celle qui avait eu lieu contre la loi martiale en 1989. Et elle est d'ailleurs même plus grande que celle-ci. Donc ça prouve que toute la société de Hong Kong est opposée à cet article sur l'extradition.
Oui, c'est l'équivalent de... C'est comme si 9 millions de Français étaient descendus dans les rues ce week-end. Hein. Jean-Philippe Béja, c'est clairement une remise en cause du principe « un pays, deux systèmes ».
Oui, alors c'était normalement sur cet accord, bien sûr, que Hong Kong est revenu à la mère patrie en 1997, à la suite d'un accord avec les Britanniques, qui étaient les anciens maîtres coloniaux. Et il y avait plusieurs choses qui étaient importantes, c'est-à-dire que Hong Kong doit conserver son système économique, son système politique et son système juridique. Or, bien évidemment, cet article sur l'extradition remet en cause l'indépendance de ce système juridique, dans la mesure où, automatiquement, une personne que réclamera la Chine pour avoir commis un crime sur son territoire sera extradée. Or, en Chine, évidemment, les crimes ne sont pas les mêmes qu'à Hong Kong. Par exemple, si vous écrivez un article pour dénoncer la dictature du Parti communiste chinois en Chine, vous êtes accusé de subversion, vous êtes sujet à une peine de 10 ans de prison. Or, à Hong Kong, aujourd'hui, vous avez tout à fait le droit, car il y a une totale liberté d'expression. Avec cet article, bien sûr, ce sera différent.
En Chine, il y a une notion très extensive, une définition très extensive du crime. Jean-Philippe Béja, on est 30 ans après la répression de la place Tiananmen. Que peut faire Pékin? Est-ce que les autorités peuvent réprimer, peuvent intervenir à Hong Kong pour faire cesser cette mobilisation?
Théoriquement, tout est possible, hein, puisque, comme vous le savez, l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, est présente à Hong Kong, et d'ailleurs présente tout près de l'endroit où s'est terminée la manifestation hier. Mais normalement, elle ne s'occupe que des affaires extérieures, de la défense nationale et de la politique extérieure. Donc, ceux qui contrôlent les manifestations à Hong Kong, c'est la police de Hong Kong. Or, la police de Hong Kong, évidemment, qui a été formée à l'anglaise, est une police qui est plutôt, d'ailleurs, moins violente que la nôtre, comme on l'a vu hier, un million de personnes dans la rue. En 2014, 78 jours d'occupation et pratiquement pas un blessé. C'est donc quelque chose de tout à fait différent. Politiquement, la Chine ne peut pas se permettre de réprimer ces manifestations, car pour elle, il est important que le reste du monde, contrairement à ce que disait justement le Global Times, reconnaisse la différence entre les deux systèmes, car cela lui donne énormément d'avantages au niveau économique. Par exemple, pendant cette guerre commerciale, Hong Kong peut servir à contourner les droits de douane.
La guerre commerciale avec les États-Unis.
Avec les États-Unis, oui. Donc on peut passer par Hong Kong pour éviter les problèmes. problème. Donc c'est très important pour Pékin, ce qui prouve, ce qui donne aux Occidentaux, aux pays étrangers, un certain pouvoir sur l'attitude de Pékin. Car si jamais ils ne reconnaissent plus ces deux systèmes, ce sera un gros problème au niveau économique pour Pékin et donc aussi au niveau politique pour Xi Jinping.
Hier, le principal journal télévisé en Chine n'a même pas évoqué cette manifestation. Les réseaux sociaux sont censurés. Est-ce que le gouvernement de Pékin, plutôt, peut craindre une contagion en Chine populaire, un nouveau mouvement de soulèvement politique?
Disons que ce silence montre bien que le gouvernement chinois est très inquiet. Vous savez, Hong Kong, c'est quand même pas loin, et c'est des gens qui écrivent en chinois. Donc, bien sûr, il y a un grand intérêt dans les milieux cultivés pour ce qui se passe à Hong Kong. Le gouvernement chinois a très très peur de la contagion, notamment vis-à-vis de la province limitrophe du Guangdong, où tout le monde regarde la télévision de Hong Kong. Donc, on essaye de faire le blackout total. Mais l'information circule tout de même et la résistance de la population de Hong Kong est regardée avec intérêt par une bonne partie de la société chinoise. C'est pour ça que le gouvernement chinois craint énormément la contagion et cherche à récupérer en fait la souveraineté totale sur Hong Kong.
Jean-Philippe Béja, merci d'avoir été l'invité du journal de 13h sur France Inter. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la Chine. Et puis tiens, vous en parliez à l'instant, un mot sur les différents commerciaux entre la Chine et les États-Unis. On apprend ce matin que la Chine a encore creusé son excédent avec l'Amérique autour de 25 milliards d'euros. La Chine vend de plus en plus aux États-Unis et les États-Unis vendent de moins en moins en Chine. Tout cela malgré les taxes que Donald Trump a récemment relevées. Le Brexit n'a pas encore eu lieu, mais il coûte déjà cher. Recul de l'activité économique au Royaume-Uni, moins 0,4% sur un mois. Et cela à cause d'une chute de la production industrielle, l'économie britannique s'essouffle sérieusement. Aujourd'hui, les candidats à la succession de Theresa May vont déposer leur candidature, dont le tonitruant Boris Johnson ou le plus posé Jeremy Hunt, ministre des Affaires étrangères, ou encore les anti-Brexit Dominic Raab et Michael Gove. Il y a un mois jour pour jour, des commandos des forces spéciales françaises donnaient l'assaut pour libérer deux otages français dans le nord du Burkina Faso. Ils avaient été enlevés le 1er mai dans la réserve de la Penjari au Bénin. Les preneurs d'otages avaient tué leur guide béninois. Deux soldats français sont morts au moment de cette intervention. Voilà qui met en lumière la situation de plus en plus inquiétante au Burkina Faso. La plupart des gouvernements occidentaux l'ont classé comme zone à risque et la population expatriée ou locale est obligée de s'adapter. Reportage à Ouagadougou de notre envoyé spécial Claude Guibal.
Donc la voiture avant. Et après.
Dans la pénombre, les images défilent sur le mur, des mines qui explosent au passage de véhicules. Assis dans le noir, trois hommes prennent des notes, regardent comment vérifier si une grenade n'a pas été collée au châssis de leur voiture. Ces hommes sont burkinabés, chauffeurs pour des entreprises étrangères.
On se disait certainement que ça n'allait pas arriver au Burkina un jour, mais voilà, c'est arrivé, donc on est obligé de nous former pour pouvoir mieux gérer ce genre de situation.
Celui qui leur parle s'appelle Gérald Pochard, FSIP, sa société fait dans la sécurité les formations au risque terroriste.
Et on va dire que les expatriés, il y en a beaucoup qui évitent les concentrations expatriées de peur d'une attaque.
Mais dans cette ruelle de la périphérie de Ouagadougou, l'insécurité, on commence à en avoir marre. On commente avec colère la carte sécuritaire émise par l'ambassade américaine.
On voit une carte rouge comme ça. Non.
Elle est effrayante. Hein
c'est
exagéré, c'est pas comme ça.
Ouagadougou, c'est formellement déconseillé et le reste, c'est interdit. Vraiment,
c'est... Protéger les ressortissants sans nuire aux intérêts économiques et politiques du pays, la tâche est délicate. Ici, ce n'est pas le Mali, jurent les Burkinabés dont le pire cauchemar serait de connaître le même enfer que leurs voisins du Nord. À Ouagadougou, Claude Guibal, France Inter.
Il est 13h23. On revient à l'actualité française et au compte à rebours pour le baccalauréat, jour J-7 avec la philosophie pour les élèves de série générale lundi prochain, élèves de série générale et technologique et le français pour les séries professionnelles. Lundi prochain, donc, Arthur passera son bac. Il est en terminale ES au lycée Alain du Vésinet dans les Yvelines. Il raconte à Sonia Princet quelle pression il a sur les épaules.
Mes parents, ils me mettent beaucoup la pression. Ils m'ont dit, c'est vraiment hyper important. Le soir, au lieu de sortir, parfois me détendre, ils me disent, allez, travaille jusqu'à minuit, des choses comme ça. Alors moi, je leur réponds que je peux pas travailler la nuit. Je veux bien travailler de 10h à 20h, mais après, à partir de 20h, que le soleil commence à se coucher, je commence à être un peu fatigué, je préfère sortir parce que je serai pas au point pour réviser. Ma mère, elle fait des crises de rage parce que elle me voit sortir alors que j'ai le bac. Elle me dit, Arthur, révise, Arthur, tu vas pas l'avoir comme ça, Arthur, faut que tu sois rigoureux, faut que tu sois assidu, faut que tu relises avant de te coucher, des trucs qui sont importants. Du coup, je l'écoute, je dis oui, je le ferai en rentrant. Et du coup, je le fais en rentrant. Parfois, je révise un peu, je relis juste mes cours pour que mon cerveau travaille avant de dormir. Ça va être vraiment une semaine assez dure. Peut-être l'une des plus dures de ma vie. Parce que faut vraiment essayer d'avoir une mention pour ma mère, je pense. Ça lui fera plaisir. Après, moi, je m'en fiche un peu de la mention, autant que je l'ai, c'est bon.
Voilà, on ne sait pas qui, des profs ou des mères, mettent le plus la pression sur les élèves. Allez, malgré le stress, malgré les révisions, les candidats auront bien une pensée pour leur papa cette semaine, une gentille attention, car dimanche prochain, c'est la fête des pères. Les petits sont tout particulièrement mobilisés pour préparer un cadeau. C'est le cas de Rémi, Elena, Amine, Léo, Lola et Antoine. Ils ont 5 ans, ils sont en grande section au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Ils vont travailler toute cette semaine. Alors attention, si vous êtes l'un des pères concernés, bouchez-vous les oreilles pour ne pas gâcher la surprise. Pour tous les autres, tendez l'oreille, c'est trop mignon. Sandrine Houdin les a rencontrés pour C'est mon actu.
Un avion, parce que c'est pour les garçons.
Comment tu l'as construit ton avion? Comment tu as fait?
En fait, d'abord on a peint les petits bâtonnets, on a pris une pince à linge, après on a collé et après on a attendu que ça sèche. On a mis des petits traits noirs avec des petits points au milieu et après on a mis de la colle.
Dis donc, ça doit être long de faire un avion comme ça.
Oui, les avions, parfois c'est dur à en faire.
Faut pas lui donner avant la fête des pères.
Non, je veux pas donner. Moi, je vais le cacher. Moi, je vais le cacher derrière mes jouets.
Est-ce qu'il est beau, votre papa?
Oui, papa, il est beau, il est fort. Moi, il est plus fort. Non, c'est le mien. Mon papa, il est capable de porter un mur.
Capable de porter un mur?
Oui. Quand il se force avec ses jambes, il a une bosse. Aussi, dans les bras, il en a.
C'est-à-dire?
Des bosses, c'est des biscottos.
Ah, des biscottos. Il a beaucoup de bosses?
Un petit peu dans les bras, mais beaucoup dans les jambes.
C'est important d'avoir des biscottos?
Oui. Ma maman, un jour, elle a dit qu'elle veut faire du sport pour avoir des biscottos, mais en fait, elle n'en a jamais eu. Et même si elle fait du sport, elle n'en a pas eu.
Est-ce que c'est important un papa?
Oui. Si on n'a pas de papa, eh ben on peut pas faire d'enfant. Mais notre papa, il met la graine où? Dans le ventre de notre maman. Bah, notre maman, elle a pas trop dans le ventre, comment il fait?
Ah, alors ça?
Moi, il a pas beaucoup de cheveux, mon papa.
Ah bon, ils sont partis où?
Je sais pas.
Il les a coupés.
Mais tu le trouves très beau.
Oui, il a une barbe piquante.
Et qui est le plus sévère?
Papa. 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 Non, mon papa, il est sévère, mais il gronde pas très fort.
Ça veut dire quoi? Raconte.
Papa, il veut pas hurler parce que sinon, il aura mal à la gorge.
Ah d'accord, alors il fait comment alors quand tu as fait une bêtise, papa?
Bah, il gronde, mais tout doucement.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre papa pour la fête des papas?
J'aime mon papa, puis je lui fais un bisou, un câlin.
Qu'est-ce que tu veux lui dire, toi?
Je t'aime, papa. Bisous d'amour.
Et comme tous les jours à 13h sur France Inter, on évoque la Coupe du Monde féminine de football à suivre ce soir. Argentine-Japon à 18h et Cameroun-Canada à 21h. 3 matchs hier soir, Brésil-Jamaïque 3-0, Italie-Australie 2-1, tout comme Angleterre-Écosse 2-1. Vous l'entendez, on parle d'équipes d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe, des Caraïbes, mais aucune équipe arabe ne participe à la compétition, c'est bien simple. Aucune équipe de cette région du monde féminine ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde féminine de football. Et pourtant, Christian Cheneau, du Maghreb jusqu'au golf, les femmes aiment le foot.
Au Moyen-Orient, Honet Al-Jayeh est une pionnière du ballon rond. Cette Palestinienne de 35 ans est la cofondatrice de l'équipe nationale féminine de Palestine. Dans les territoires palestiniens, le football permet à la jeunesse, le temps d'un match, d'échapper à l'occupation israélienne. Pour les jeunes filles, c'est aussi un moyen d'émancipation, explique Honet Al-Jayeh.
Il y a 19 clubs de football féminin et le nombre augmente. Vous pouvez voir une rebelle chez les filles qui veulent un futur meilleur. Elles adorent le foot, elles veulent progresser. En Palestine, le football, c'est plus qu'un jeu, c'est tout, c'est l'identité, c'est une reconnaissance, c'est en fait nous mettre sur une carte.
Dans les pétromonarchies arabes, l'évolution de la condition féminine se joue aussi sur les terrains de football, constate Ouria Ettaheri, première femme entraîneur d'une équipe féminine dans le golf.
Aux Émirats, ça change vraiment, parce qu'on a de bonnes installations pour que les femmes puissent jouer. En fait, nous avons des difficultés avec des gens qui pensent que les femmes ne devraient pas jouer au football. Ils considèrent que c'est un sport réservé aux hommes. Ce n'est pas facile d'être accepté aujourd'hui, mais avec le temps, ça viendra, car nous montrerons ce dont nous sommes capables.
Et Ouria Ettaheri de rêver qu'un jour, une équipe arabe féminine remporte la Coupe du Monde de football.
13h29, le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Élodie Calac de Météo France.
De la Bretagne vers la région parisienne et le nord de la Seine, c'est bien nuageux avec des averses, parfois un orage. Entre les Pyrénées, les Alpes, le Grand Est s'est encombré, quelques averses au programme, des averses plus nombreuses, plus soutenues et orageuses sur le relief et de Rhône-Alpes vers la Lorraine et l'Alsace. De la Vendée et de l'Aquitaine vers le Limousin, la Sologne, on n'est pas à l'abri d'une averse, mais on peut espérer d'assez belles périodes de soleil. Soleil que l'on retrouve plus franchement près de la Méditerranée et en Corse avec du vent. Les températures baissent à l'ouest, 14 degrés à Rouen, Brest, 17 à Tours, 19 degrés à Paris, Lyon, Agen, 22 à Nancy, 28 à Montpellier, à Marseille et 29 degrés à Bastia. Demain, ce sera encore un peu plus frais, souvent 14 à 20 degrés, avec de la pluie des Pyrénées et de la Méditerranée vers les régions de l'Est et des averses ailleurs, fréquentes et orageuses sur le Nord-Ouest.
Allez, pas de marche de l'histoire. Aujourd'hui, on trouvera Jean Lebrun demain sur France Inter, non ? On est ensemble jusqu'à 14h pour un journal de 13h spécial consacré à présent au Livre Inter 2019. Le président du jury, Riyad Satouf, est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Eva Bétan, la grande organisatrice de tout cela, est bien aidée par toute une équipe derrière qu'on peut saluer. Une série
notamment
de petites
Roselyne
mains,
de
notamment
Chalambert,
Roselyne,
indispensable.
Qui nous a beaucoup aidés, est avec nous, Eva.
Et tous les lecteurs de lettres, parce qu'il faut dire qu'on reçoit 2500 lettres et qu'il y a environ 25 personnes de la maison, de tous les services qui les lisent.
Voilà, et parmi les 2500 lettres qu'on a reçues, eh bien nous avons 12 hommes et 12 femmes qui sont ici et qui composent le jury. La vainqueur, c'est donc vous, Emmanuel Bayamaktam. Vous avez publié chez POL Arcadie. C'est un roman de près de 500 pages. Je résume l'histoire sans divulgâcher, comme disent les Québécois. Vous nous parlez de Farah, une jeune fille de 14 ans qui vit dans une communauté qui s'appelle Liberty House. Elle est en pleine zone blanche, hein, il n'y a pas d'onde. On est à la frontière italienne sur la Côte d'Azur. Et puis, dans cette communauté, Farah vit avec des marginaux au sens premier du terme, des gens en marge, sa mère qui est hypersensible aux ondes, son père qui est pas loin d'être illettré. Elle vit avec ce que vous appelez les laissés pour compte de la grande parade. On trouve aussi une vieille millionnaire très riche, qui a des décroissants, il y a des naturistes, l'amour est libre, le sexe est pas toujours joyeux. Et au milieu de tout ça, donc Farah, jeune fille de 14 ans, enfin jeune fille justement, au moment de sa puberté, elle découvre qu'elle n'en est pas biologiquement une. En même temps, elle n'est pas totalement garçon, même si elle se virilise. Vous posez, Emmanuel Bayamaktam, la question du genre, de l'identité, de l'antispécisme, de l'hypersensibilité, du numérique qui est absent, puisqu'elle lit beaucoup de livres, la jeune Farah. Vous parlez en gros des normes, de ce qui fait la norme de notre société, et vous aimez les personnages hors normes. C'est le cas dans Arcadie, c'est le cas dans vos autres romans. Pourquoi cet intérêt pour des personnages qui sortent de la norme ?
Parce que finalement, c'est depuis les marges qu'on interroge le fonctionnement de la société. Je pense que mon personnage de Farah, précisément parce qu'elle est hors norme, elle va avoir une espèce d'acuité de jugement terrible sur le monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas.
Vous dressez, Emmanuel Bayamaktam, dans Arcadie, une galerie de portraits assez haut en couleur. Vous les qualifiez de freaks. Alors, la meilleure traduction, c'est quoi ? En anglais, ça veut dire une créature. Alors, c'est pas des créatures, c'est des êtres humains, mais ils sont tous un peu foutraques. Hein. On a la grand-mère lesbienne qui a un piercing au sexe. On a l'amant obèse du gourou qui est précieux et adipeux à la fois. On a des scènes assez déjantées. On va pas rentrer dans le détail, mais une scène chez le gynécologue, par exemple. On rit, c'est drôle. Et c'est rare d'avoir des romans drôles. Vous êtes tendre et vous êtes vache à la fois.
Oh, dans presque tous mes romans, il y a une scène chez le gynécologue. J'essaie toujours d'en caser une et de la rendre la plus saugrenue, la plus désopilante possible.
Bah, c'est réussi alors dans ce cas.
Oui, oui, j'étais assez contente en l'écrivant moi-même, je riais. Alors effectivement, hein, j'ai des personnages sur lesquels on peut porter un regard critique ou au contraire un regard bienveillant. En tout cas, moi je les propose à celui du lecteur et j'espère quand même créer de l'empathie, même quand ils sont critiquables, étranges, tous ces personnages.
Parmi des thèmes en résonance avec l'actualité, il y a l'accueil des migrants. Dans cette société arrive un jeune garçon érythréen que Farah va d'abord appeler Vendredi. Mais c'est un peu le contraire du Vendredi et des Limbes du Pacifique, parce que là, c'est Vendredi qui vient perturber une sorte de paradis perdu ou de paradis rêvé. La communauté ne sait pas comment l'accueillir.
Alors effectivement, comme j'ai situé cette communauté à la frontière franco-italienne, il était assez logique que les réfugiés soient là. Donc j'ai inventé ce personnage d'Angosom, hein, en fait, il s'appelle comme ça, mais qui est un personnage archi-littéraire, en fait. Hein. C'est à la fois l'obscur objet du désir, c'est effectivement Vendredi, mais en même temps c'est Ophélia, en même temps c'est Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale. Enfin, j'en ai fait un personnage un peu allégorique et qui effectivement va être une espèce de pomme de discorde dans cet Éden.
Et il est comme le Vendredi de Tournier, il fait l'amour avec la nature.
Fait-il vraiment ? Oui, oui, c'est vrai. Quand il se baigne dans l'étang, je vous confirme. Oui, oui.
Votre style, Emmanuel Baya-Maktam, on peut noter de très belles descriptions de la nature. Vous aimez beaucoup parler de la nature, de Farah et des autres personnages qui se meuvent dans les sites naturels. On peut aussi citer beaucoup de longues et de belles énumérations. Je vais juste en lire une qui n'est pas trop longue, mais qui va peut-être permettre à ceux qui vous ont pas lu de se familiariser avec votre style. À nous tous, archanges érythréens, hermaphrodites énergumènes, syndrome d'Asperger ou de Rokianski, Vénus noire, bipolaire dépigmenté, exilé du paradis ou réfugié de guerre, etc., etc. Ce livre, c'est un livre politique avec un grand P. Vous voulez réhabiliter quoi ? L'esprit de communauté, l'esprit hippie, l'esprit zadiste, l'esprit nuit debout ?
Un peu tout ça. Alors, c'est effectivement mon livre le plus politique et peut-être le plus ancré dans la réalité contemporaine. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé aux zones à défendre en écrivant Arcadie. Mais finalement, je m'intéresse à toutes les dissidences, à tous les gens qui, quelque part, essaient d'inventer d'autres façons d'exister que celles qui nous sont proposées et pour lesquelles nous sommes sur les rails dès l'enfance.
Hors de la norme.
Voilà, donc dès que ça bifurque un peu, ça m'intéresse.
À votre gauche, le président Riyad Satouf. Rebonjour, monsieur le président. Alors, vous avez déjà été jugé, mais vous n'avez jamais été juré. C'est plus dur d'être candidat ou c'est plus dur d'être le président du jury qui va désigner un lauréat ou une lauréate, en l'occurrence?
Non, pour moi, c'était très compliqué. Mais alors, heureusement, j'étais pas tout seul. Donc, il y avait 24 autres jurés passionnés qui sont venus avec leur cahier plein de remarques sur les livres, etc.
Ils continuent là. Hein,
ils écrivent.
C'est très impressionnant.
Quand je suis entré, j'en ai vu quelques-uns. Voilà, je suis tombé sur leur cahier de lecture. Là, c'était vraiment 60 pages. Hein, ils avaient tout. C'est la passion absolue. Voilà. Bon, en tant que personne qui fait des livres, c'est très compliqué de donner son avis sur d'autres livres. Voilà, je sais pas si j'ai moi, ça m'a semblé quand même très difficile parce qu'il y a tellement de livres hyper bien
et très variés.
Très variés. C'est vrai que Arcadie, tout le monde l'aimait en fait ce livre. Mais en même temps, il y avait d'autres.
Tout le monde en a parlé.
Tout le monde, il a fait rire tout le monde. Tout le monde, les thèmes, la richesse des thèmes qu'il avait. On sentait que tout le monde était touché par ce qu'il disait. Voilà. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand il y a plein de livres très bons. Chacun a son. Voilà, c'était très intéressant.
Quels critères vous vous étiez fixé ? Est-ce que vous étiez dit, je vais juger le style, je vais juger l'intrigue, je vais juger l'auteur ?
Uniquement les auteurs sur leur physique ? Non, non, je plaisante.
Pas du tout. En fait, c'est vous qui le dites.
Hein. Beauté,
pas du On tout. Vous laisse vous débrouiller avec Emmanuel.
Non, absolument pas. Non, non, aucun critère du tout, en fait. Voilà, c'est vrai que moi, en tant que lecteur, déjà, je lis assez peu de romans modernes. Et souvent, je suis un peu... peut-être brutalisé parfois quand je lis des textes, parce que je me mets tout de suite à la place du type qui l'a, ou de la fille qui l'a écrit, en me disant, est-ce que j'aurais fait comme ça? Ah, pourquoi elle a fait ça? Nanana. Donc c'est parfois un petit peu douloureux, mais j'étais très curieux justement de regoûter à cette littérature moderne que je ne fréquente absolument pas, et là j'en ai eu 10 d'un coup, c'était extrêmement agréable aussi.
Eva Bétan.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va donner la parole au juré, c'est que, tout le monde en a parlé et j'ai envie de dire que tout le monde, bien sûr, dire c'est drôle, c'est ce qui vient en premier parce que c'est rare que des livres soient drôles et que ça fait un bien fou. Mais ça n'a jamais été pris que pour ça. Ça pourrait être une histoire terrible, une enfant qui a tous ses problèmes et c'est un personnage porteur. Ça aurait pu être un livre politique, nous sommes dans un monde normé. Et s'il y a une politique, elle est en contrebande. Il y a une sorte d'hybridation dans le livre qui passe partout. Ce qui est drôle peut être tragique en même temps. Ce qui est cru peut être poétique. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'est comme si ça bougeait les neurones de tout le monde. Alors je trouve que les jurés parlent beaucoup mieux que nous. C'est une leçon d'humilité quand on entend le juré. On se dit c'est eux qui devraient être critiques.
C'est très impressionnant. Qui a envie de
je dirais, de faire avancer les choses. Qui a envie de dire des choses sur le livre. Voilà, on va donner la parole à Geoffroy, hein, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. Oui, parce que je voulais dire une chose que j'ai pas beaucoup entendue, même enfin, entre nous et puis ni ce matin dans la matinale. Je trouve que on n'a pas beaucoup parlé de l'ambition littéraire de ce livre, c'est-à-dire de ce que ça coûte à l'auteur, en l'occurrence à vous, Emmanuel Bayamaktam, de transformer ce qui brûle en vous en une expérience qui est sensible, que nous, lecteurs, on va faire. Et je trouve que à propos d'Arcadie, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point le livre est vibrant, vivant, et nous donne à vivre, à faire, nous, une expérience sensible. Quelqu'un a dit ce matin sur la question être homme ou femme, mais le livre n'arrête pas de nous interroger, de nous ramener à nous. Et juste encore une toute petite chose, à quel point c'est en ce sens aussi qui me semble subversif pour notre époque. C'est à quel point il fait le pari de la joie, à quel point il nous dit comment, malgré sa généalogie, malgré ses ascendants catastrophiques, son héritage psychique, ses singularités physiques, sexuelles, comment Farah fait le pari de l'exultation de vivre, de la joie de vivre, de la sensualité. J'y vais, je veux ça. Mmh.
Toutes ces difficultés sont une force.
Emmanuel.
Moi, je dois dire que c'est extrêmement rafraîchissant d'entendre des gens parler de ce livre, enfin, du livre qu'on a écrit. Enfin, moi, j'étais très... Enfin, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, là, depuis hier soir et ce matin, que je discute avec certains jurés, pas tous, hélas, hein, et je le regrette, de voir que, finalement, il y avait des gens qui mettaient la littérature à une place centrale dans leur vie, sans être écrivain, sans être critique littéraire, mais simplement, voilà, ce sont des lecteurs, et pour eux, la littérature, ça compte. Et quand on écrit, on a tellement peur finalement que le livre soit un objet dérisoire et presque périmé, que de rencontrer des gens de tous les âges et de tous les bords qui vous font comprendre à quel point ça compte pour eux, ça vraiment, ça m'a fait chaud au cœur.
Bon, on continue le dialogue avec Vanessa qui s'est saisie du micro.
Oui, moi j'aimerais vous remercier, vous féliciter Emmanuel Bayamaktam. J'ai aimé votre écriture éminemment poétique, c'est vraiment beau, il y a des belles pages. Nous n'avons pas parlé hier aussi des pages gastronomiques. C'est un véritable plaisir gourmand
très important,
de
oui.
vous lire avec le personnage de Fiorentina qui est toujours au fourneau. Voilà, j'ai trouvé beau de donner leur place aux vieux, aux malades, à tous les porteurs de syndromes en tout genre, à tous les inadaptés de la société, et puis les faire cohabiter dans un espace qui devient une utopie, parce que tout le monde y a sa part de plaisir, de bonheur et d'épanouissement. Alors merci, et au-delà de ce que ce livre peut avoir de dérangeant, c'est vrai, eh bien ce qu'il faut surtout voir, c'est le message d'amour, de paix et de tolérance que porte le personnage de Farah.
Écoutez, merci beaucoup Vanessa. Je suis très heureuse que le mot de poésie soit prononcé parce que pour moi ça compte. Hein. Certes, c'est un roman, là, Arcadie. Oui, je peux pas dire le contraire. Mais je tiens à ce qu'il y ait une espèce de noyau irradiant de poésie au cœur de la prose la plus romanesque.
Jordine, j'ai une question. Comment on transforme une révolte que vous avez eue au début, une colère, en joie, en fait que c'est un livre qui donne la pêche?
Alors peut-être parce qu'il y a chez moi une espèce de jubilation à écrire et à créer. Ce personnage de Farah est tellement elle-même dans... alors je sais pas quel est le mot exact, mais dans la joie, dans l'énergie vitale, dans le désir, que finalement elle emporte un peu tout sur son passage.
Qui d'autre veut s'exprimer ?
Moi je voulais dire un petit mot sur l'écriture d'Emmanuel parce que je la trouve... très belle sur la forme et sur le fond aussi. Je voulais juste lire une phrase. Parce que je trouve que c'est une ode à la tolérance et à une transgression qui se fait sans violence, juste par débord naturel et accepté. Elle dit « Mon héritage est là aussi, dans la certitude que l'infraction doit primer sur la norme, dans la conviction qu'il ne peut y avoir de vie qu'irrégulière et de beauté que monstrueuse. » Et je trouve que vraiment, cette libération qu'offre Arcadie, c'est un message qui est important aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup, Pascal. J'aime bien cette phrase, moi aussi. Mais justement, quand vous allez chercher un personnage qui dirait, je dirais, qui est le contraire d'un personnage qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la beauté, qui a toutes sortes de... Vous la décrivez, mais vraiment, vous dites, je suis laide, elle dit, je suis une erreur de la nature. Et quand de ça, vous faites un personnage porteur, qu'est-ce que, au-delà de l'exploit d'arriver à ce qu'on ait envie d'être elle, c'est quand même un comble, qu'est-ce que vous cherchez?
Oula, c'est un peu un des leitmotifs de ce que je peux écrire depuis quelques années. C'est l'idée que finalement, la plupart des gens, enfin vous, moi, on n'est pas, enfin les beautés sensationnelles sont rares, les laideurs rédhibitoires sont rares aussi. La plupart des gens, ils sont quelconques physiquement. Et finalement, pourquoi dans les romans, les gens seraient toujours d'une beauté sensationnelle? Donc c'est vrai que moi, j'ai souvent des personnages un peu disgraciés physiquement. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où vous êtes dans le désir, vous suscitez du désir. Quand bien même vous seriez comme Farah, un peu bossu, un peu poilu, un peu intersexué.
Un peu Sylvester Stallone.
Oui, Sylvester ouais. Stallone mais, en fille.
Alors ouais. Justement, toutes les descriptions des personnages, on en parlait au début de cette page spéciale, vous avez des descriptions très graphiques. Moi, je voulais savoir si le dessinateur Riyad Satouf s'était déjà imaginé à dessiner cette Farah effectivement bossu, velu.
Ce serait pas très beau à dessiner.
Ou la grand-mère, ou la grand-mère fripée. Est-ce que vous avez essayé d'imaginer leur visage? Est-ce que vous pourriez les dessiner?
Non, mais on ne les imagine pas. Ils apparaissent quand on lit le texte. Il n'y a même pas besoin de... C'est une écriture très visuelle, très vivante, en fait, qui est pleine de... Comment dire? Ça, il y a un foisonnement, je sais pas quand, c'est extrêmement touffu de part. Moi, j'ai vraiment, ça m'a beaucoup plu.
Les descriptions des personnages.
Oui, les descriptions des personnages. Et cette Farah, alors, j'avoue que quand vous parlez de bossu, de poilu, etc., moi, ça me fait un petit peu peur à chaque fois. Ouais. Mais.
Vous la verriez pas trop dans les cahiers d'Esther, quoi.
En tout cas, je sais pas si Esther l'aimerait beaucoup. Mais en même temps, il y a tout un chemin.
Elle est formidable.
Enfant.
Mais on a envie d'être copine avec elle. Enfin, on a envie de la connaître.
C'est vrai, bien sûr. Non, mais bien
puis elle
sûr.
A un succès fou. À la fin, finalement, en boîte, elle séduit tout le monde.
Elle séduit tout le monde. Elle a une description que j'adore, que vous dites. Elle dit, je suis une fille aux muscles d'acier. Un garçon qui n'a pas peur de sa fragilité, un être inassignable, un esprit libre, un être humain intact.
Oui.
C'est une définition de la personne qui ouvre sur l'avenir, c'est quoi?
En tout cas, c'est la définition de mon héroïne, parce que c'est vrai qu'il lui faut quand même un certain héroïsme, un certain courage pour affronter la vie avec toutes ces disgrâces et effectivement ce point de départ dans la vie qui n'est pas très heureux, parce qu'elle a des parents qui sont défaillants, elle a toutes ces tares physiques dont je parle abondamment, et voilà, pour moi, c'est vraiment l'incarnation même du courage et de l'héroïsme.
Clément, on vous écoute, Clément.
Merci. À ce sujet, en ouvrant le journal, vous avez posé la question à Emmanuel Bayamaktam, pourquoi lire votre livre? Et après tout ce qu'on...
Elle ne m'a pas répondu d'ailleurs.
Et après tout ce dont on a déjà dit, il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans ce livre et qui est en lien avec toutes les raisons pour lesquelles, je crois, nous l'avons aimé. C'est que on a entendu parler dans le journal à la fois de la question de la dépendance des personnes âgées, on a évoqué nouveau fait d'intolérance, de menace. Toutes ces questions-là, elles sont traitées dans le roman et elles sont passées par le prisme à la fois de l'humour comme canalisé grâce au personnage de Farah. Et le personnage de Farah, on grandit avec lui au fil des pages du livre, on le voit mûrir, on la voit se tourner vers de nouvelles idées, vers de nouvelles façons de voir les choses. Et je pense que pourquoi lire ce livre, c'est parce que l'une des plus belles façons d'être accueilli dans ce livre, c'est la façon dont Arcadie accueille Farah à Liberty House.
Arcadie, c'est le patron de la communauté.
Certains diraient le gourou, mais on peut en discuter pendant très longtemps.
Le maître à penser.
Exactement. Et ce que je trouve très beau, c'est que quand il accueille Farah, Il la regarde et Farah s'entend répondre « N'ayez pas peur ». Et elle fuit tellement d'angoisses, qui sont des angoisses à la fois des angoisses existentielles, mais aussi des angoisses qui font l'ouverture des journaux, que ce soit la guerre, la pollution, la mondialisation, le flux de migrants, etc., qui sont autant de questions auxquelles nous, on est confrontés quotidiennement. Et là, d'un coup, elle trouve un nouvel Éden, un paradis, un endroit où on lui dit « n'ayez pas peur ». Et c'est grâce à cette absence de peur qu'elle se réveille et qu'elle devient cette femme, à un moment presque un peu androgyne, qui, très loin de tous les canons de beauté, va être très convoitée quand elle fait l'expérience de la boîte de nuit, quand elle, etc. Et juste ce « n'ayez pas peur-là », je trouve que c'est l'une des plus belles façons de rentrer dans ce livre, et de se laisser porter vers un autre regard à la marge. Et de, voilà, il fait très bon de se promener au bras de Farah à la marge avec ce livre.
Pour prolonger l'exposé de Clément, Emmanuel Bayamaktam. Il était déjà très fort hier dans les débats. Pour prolonger ce que vient de dire Clément, il y a tout de même cette question que moi, personnellement, je n'ai pas pu résoudre. La communauté, elle est plutôt protectrice ou elle vous enferme?
Alors, j'ai mon avis sur la question, bien sûr, et je vais vous le donner. Mais là aussi, en discutant avec certains des jurés, je me suis rendu compte que tous ne voyaient pas cette communauté de la même façon et tous ne la voyaient pas comme moi, je la vois. C'est vrai que moi, je porte sur cette communauté un regard très bienveillant, même si je la montre aussi dans ses contradictions et dans ses défaillances. Je pense que c'est une communauté qui est là pour protéger parce qu'il y a un « nous ». Hein, c'est un roman que j'aurais voulu écrire entièrement à la première personne du pluriel. Et puis sur le plan stylistique, en fait, ça n'était pas tenable jusqu'au bout. Hein. J'ai essayé, mais bon, ça fonctionnait pas très bien. Mais Farah le dit, finalement, elle sait ce que c'est que le collectif. Et ce collectif-là, quand bien même il défaille, quand bien même je le montre comme très très imparfait, il la protégera jusqu'au bout.
Et là, vous êtes complètement en contradiction avec l'époque actuelle, où l'époque actuelle est qui est plus individualiste. Mmh. L'idée de la communauté est une utopie qui remonte aux années 70, mais la notion même du nous a disparu. Est-ce que c'est une nostalgie d'un nous qui a disparu ou vous pensez qu'il faut retrouver le moyen de reconstruire un?
Non, mais détrompez-vous, il y a des communautés très actives par le monde. Oui. Certes, elles sont marginales, mais il y en a dans le monde entier. Des gens qui essayent de vivre différemment, en particulier dans le domaine de la sexualité, mais pas seulement.
Mais il y a une idée politique ou il n'y en a pas quand vous parlez de la communauté, vous? Est-ce que vous avez une idée d'un changement de société que vous souhaiteriez et que vous mettez en germe, qu'on comprendra ou qu'on ne comprendra pas?
Ben oui, bien sûr. Et je pense que ce changement de société peut venir de ce type de collectif un peu dissident, peut venir des zones à défendre, par exemple.
Michel, le bûcheron du jury.
Oui, d'accord. Oui, non. Il y a une phrase, moi, qui va me faire cogiter pendant un moment, c'est quand elle dit je veux bien faire vœu d'esclavage, mais tu ne seras jamais mon maître. Alors là, j'aimerais bien... Ça va faire cogiter, cette affaire-là, parce qu'il y a quoi dire.
Oula, je ne sais plus du tout cette phrase. Alors j'imagine que c'est Farah qui l'a dit, mais à qui? Je ne sais plus, Michel. Donc je ne me rappelle. Vous êtes sûr que c'est de moi? Quelle page? Oui, non, mais...
On va laisser Michel chercher. Ouais. Ce qu'on vous propose, parce qu'on vous a demandé avec Eva Bétan de sélectionner un extrait de votre livre à nous lire. Donc on va vous laisser faire, Emmanuel Bayamaktam, un extrait d'Arcadie sur France Inter. Arcadie, publié chez POL, la lauréate du Livre Inter 2019.
Alors c'est le début d'un chapitre qui s'appelle « À quoi bon l'amour ?» Nous voici de nouveau embusqués près de l'étang, à guetter l'apparition d'Angosum, ce moment qui le verra émerger de la ligne légère des frênes et des saules, d'abord semblable à eux, puis détachant ses chairs des leurs, s'avançant jusqu'à l'étang laqué par la lune pour y refléter son ombrageuse beauté de cygne. Et ça ne loupe pas, là au moins pas de déception, il arrive à petite foulée et se déshabille du même élan, envoyant vers nous par intermittence des effluves tièdes, mâles, musquées. Histoire de vérifier si je sens encore la fille, j'envoie discrètement le nez sous mon aisselle. Mais là aussi, mes glandes commencent à semer le trouble et à émettre des signaux perturbants. On n'est jamais si bien trahi que par soi-même en général et par son corps en particulier.
C'est très organique comme écriture.
Oui, De fait, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de décrire le corps sous tous ses aspects, mais pas forcément le corps glorieux, ferme et lisse, hein, mais effectivement, je suis un peu gérontophile. Le corps décrépit, ça m'intéresse aussi, comme, au moins comme sujet d'écriture, et le corps souffrant, malade, infirme, oui, m'intéresse.
Eva Bettan, Riyad Satouf, il y avait d'autres livres en compétition hier soir au Livre Inter. On peut peut-être parler de 4-5 oui. titres qui ont vraiment émergé dans les débats.
Oui, notamment le livre de Jean-Claude Grimbert, La plus précieuse des marchandises. Et je vais laisser Aurore, en une phrase, vous avez souligné un point qui était important.
D'accord, alors en une phrase...
En deux, allez.
Voilà.
Oui, vous avez un peu de temps quand même.
Sans évoquer l'ouvrage, donc c'est un petit roman très court qui est construit sur le mode du conte. Et donc, cette forme qui a été adoptée par l'auteur, ça permet d'aborder le thème de la Shoah d'une manière très, beaucoup plus subtile. Et un petit peu en forme de pied de nez à l'histoire et à la vérité, puisque l'entrée en matière, c'est voyons, ça n'existe pas, des parents qui abandonnent leurs enfants dans la forêt. Et puis tout ce thème va être décliné, et on y reviendra à travers l'épilogue, en nous disant tout ça, ça n'est qu'une fiction, ça n'est jamais arrivé, voyons. Et en fait, ce conte en fait apparaît comme un délicat plaidoyer contre le négationnisme. Et il me semble, on a tous parlé ensemble, on l'a tous beaucoup conseillé ou donné à lire à nos enfants ou à des proches. Et c'est un livre qui me semble mériterait d'être lu au collège, en fait.
Et le point commun d'ailleurs entre le livre de Grimbert et votre livre, Emmanuel Bayamaktam, c'est l'amour. Chez Grimbert et dans votre livre, hein, vous le citez, je vais le dire en français, mais la citation latine, « L'amour peut tout vaincre ». C'est le point commun entre deux livres pourtant totalement différents dans le style, dans la thématique.
Et je voudrais citer les autres livres dont il était question beaucoup, le livre de Sarah Chiche, « Les Enténébrés », le livre de Maïlys de Kerangal, le livre de Capucine et de Simon Johannin, le livre de Philippe Vassé. Donc d'autres aussi, on a parlé de tous les livres, mais ces livres-là ont eu vraiment des fans et des gens qui en ont très très bien parlé. Et c'est important parce que je suppose qu'être un écrivain, c'est important de savoir que vos livres sont entendus. Il y a un livre qui est primé, mais les autres livres aussi ont existé. Je crois que c'est important de le dire.
Ouais. On a beaucoup parlé de tous ces titres. Je ne sais pas si encore un de nos jurés, Samuel par exemple, le chocolatier.
Le chocolatier, le plus beau métier du monde.
Tout le monde l'a repéré. Hein.
Presque.
Non, moi je voulais dire que c'est quelque chose qui est sorti au moment des débats hier. C'est-à-dire que avoir une sélection de livres qui a été choisie pour nous, ça nous ouvre des horizons. Donc ça nous donne l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs. Alors moi, par exemple, j'habite en général loin de la France. Donc j'avais entendu parler d'un auteur comme Maïlys de Kerangal. J'avais jamais eu l'occasion de lire un de ses livres. Et j'ai vraiment adoré son livre. Et donc je suis sorti de ma lecture et je suis allé à la librairie la plus proche acheter l'œuvre complète, enfin tout ce que je pouvais trouver en librairie. Donc ça m'arrive de temps en temps. Et là, c'était une très agréable surprise. Découvrir Emmanuel Bayamaktam aussi, qui était... Enfin, il y avait plein d'auteurs qui n'étaient pas dans mon radar. Et ça a été formidable de pouvoir les découvrir.
Tenez, passez le micro, elle a une toute petite minute, à Clémence, votre voisine, la Lilloise du groupe.
C'est effectivement une expérience très riche qui nous a été donnée, déjà de venir de toute la France, d'avoir des professions extrêmement différentes, et d'être réunis par ces livres qu'on n'a pas choisis, et d'en profiter pour se poser la question, qu'est-ce qu'on privilégie ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant ? Qu'est-ce qu'on recherche dans un livre, dans une lecture ? Est-ce que c'est des personnages ? Est-ce que c'est une intrigue ? Est-ce que c'est la poésie, le style ? On avait tous des regards extrêmement différents là-dessus, et les livres même étaient très différents. On a remarqué notamment qu'il y avait des livres qui parlaient beaucoup de... Il y avait beaucoup d'écriture sur soi, sur ce qu'on a vécu, et d'autres qui ont réussi à partir de rien, le prodige de créer un monde, de faire émerger un monde du néant. Et c'est tout à fait ce que vous avez réussi à faire, Emmanuel Bayamaktam, et c'est vraiment très beau. Donc on vous remercie tous pour ça.
C'est moi qui vous remercie, bien sûr.
Emmanuel Bayamaktam, cela s'appelle Arcadie, c'est publié chez POL, c'est le prix du Livre Inter 2019. Bravo Emmanuel, merci à Riyad Satouf, président du jury, merci aux 24 jurés, merci à Eva Bettan et à toute son équipe d'avoir tout organisé. Je vous encourage à le lire et à l'offrir, mais aussi à lire tous les autres parce que c'était une bien belle sélection. Bon après-midi.